Le magazine des Nations Unies.
Près de 5000 cas de violences sexuelles portés en justice dans le cadre du programme Tupinge Obakaji, ou lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre en RDC, avec le financement du Canada. Ce programme, mis en œuvre par 4 agences onusiennes en collaboration avec le gouvernement congolais, est arrivé à terme. Bilan, perspectives et leçons tirées dans cette édition. 8,5 millions de dollars américains, c'est le fonds que la coopération britannique, UKID et USAID, pour assurer la scolarisation de 30 000 enfants dans le Kasaï. Un accord conjoint a été signé entre les deux donateurs et l'UNICEF. Le représentant de cette agence en RDC sera notre invité. Enfin, santé, le corridor sanitaire de Maluku en action. Toutes les embarcations et bateaux en provenance de l'Équateur, de l'ex-province de Bandundu et du Kasaï, ainsi que leurs passagers, soumis au contrôle épidémiologique aussi de Bendebende, à 8 km en amont de la cité de Maluku. Objectif, éviter toute infiltration des cas suspects de la maladie Ebola à Kinshasa, Maluku étant l'une des portes d'entrée de la capitale.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bon dimanche chez vous. Lancé en 2013, le programme Tupinge Obakaji s'est clôturé le 25 juin 2018 à Kinshasa avec une cérémonie officielle organisée au siège de la MONUSCO. L'objectif principal de ce programme était de réduire sensiblement la prévalence des violences sexuelles dans les 3 provinces ciblées. Le point avec Honoré Missinga, Kalala.
4 987 cas portés en justice, plus de 3 600 cas de réinsertion socio-économique et plus de 10 000 filles mineures réscolarisées. Ce sont là quelques indicateurs du bilan de ce programme lancé en 2013 et mis en œuvre par des agences onusiennes avec le PNUD en tête. Pour le directeur pays AI du PNUD en RDC, l'objectif du programme Tupinge Obakaji cadre avec les objectifs de développement durable.
Cet objectif corrobore les objectifs de développement durable qui place au cœur des priorités, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et comporte des cibles bien précises.
3 provinces ont été ciblées, les 2 Kivu et l'Ituri, et c'est le fonds du gouvernement canadien qui a financé ce programme à hauteur d'environ 16 millions de dollars américains. L'ambassadeur du Canada en RDC s'en réjouit.
Le Canada est fier d'avoir appuyé ce programme qui a permis pendant 5 années non seulement d'accompagner les survivantes et leurs familles, mais de dépasser le concept de prise en charge en permettant aux survivantes de retrouver leur dignité perdue par rapport aux crimes dont elles ont été victimes.
Au programme Tupinge va succéder un autre programme dénommé Justice, Autonomisation et Dignité des Femmes et des Filles, en sigle RDC-JIAD, une annonce du diplomate canadien. Et ce nouveau programme s'étendra à d'autres régions, le Kasaï central et la ville de Kinshasa.
Nous allons revenir sur ce sujet dans notre rubrique Décryptage. Signature un mercredi dernier à Kinshasa d'un accord de coopération entre d'une part l'UNICEF et de l'autre les coopérations britanniques et américaines USAID. Cet accord porte sur 8,5 millions de dollars américains destinés à garantir un accès inclusif à l'éducation à 30 000 enfants dans le Kasaï. Jean-Pierre Lali Coco a assisté à l'événement.
L'accord signé ce mercredi porte sur une nouvelle contribution conjointe de la coopération britannique et américaine dans les régions du Kasaï touchées par les conflits. Madame Natacha Demarken, directrice du bureau de l'éducation à l'USAID.
L'USAID et UKAID accordent une nouvelle subvention de 8,525,000 de dollars américains à l'UNICEF pour améliorer l'accès des enfants à une éducation de qualité au Kasaï central et au Kasaï oriental. Cette subvention conjointe permettra la réhabilitation et la construction de 59 écoles, 3000 écoliers dont 50% filles.
Elle est complétée par le docteur Robin Milton, chef de bureau de la coopération britannique.
C'est une approche qui prend en compte les circonstances extrêmes et les besoins des enfants. Dans le Kasaï, des milliers d'enfants ne vont plus à l'école à cause de conflits et la destruction des infrastructures scolaires.
La crise dans le Kasaï étant multiforme, le choix du secteur de l'éducation est, selon le docteur Gianfranco Rutigliano, représentant de l'UNICEF en RDC, fondamentale.
Rassurez-vous que l'investissement dans l'éducation est fondamental pour sauver une génération d'enfants, mais est fondamental aussi pour la paix. Parce que les enfants qui vont à l'école, les enseignants, les familles, tout ce qui tourne autour de l'éducation, c'est un élément de paix.
L'accord de ce mercredi entre dans le cadre du programme Accélère, initié en 2015 et financé conjointement par l'USAID et la coopération britannique. Il vise à soutenir les priorités du gouvernement dans les secteurs de l'éducation, plus particulièrement l'enseignement primaire, dans au moins 8 provinces de la RDC, dont celle du Grand Kasaï.
Le représentant de l'UNICEF en RDC sera notre invité. Sensibilisation et riposte contre la maladie à virus Ebola en RDC, le ministère de la Santé, avec l'appui de la coopération japonaise, a organisé à l'intention d'un groupe de journalistes une opération de contrôle épidémiologique dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa. Maluku étant l'une des portes d'entrée de la capitale, surtout pour des personnes venant de l'Équateur et de quatre provinces issues de l'ex-Bandundu. Jean-Pierre Lalicoco pour le reportage.
Il est 11h48. Le site de Bembebembe, situé à 8 km en amont de la cité de Maluku, accueille les Mbebinga en provenance de Mampangu dans le Kasaï. À son bord, une centaine de passagers, tous descendent de l'embarcation. Commence alors le contrôle épidémiologique dans ce site qui sert en même temps de cordon médical. Après le pel d'olive et le lavage de mains et la vérification des températures, c'est ici que sont détectés d'éventuels cas suspects. Puis, les passagers passent à l'enregistrement. Une équipe de programme national d'hygiène aux frontières leur octroie à chacun un certificat de police sanitaire. Les cas suspects sont vite dirigés dans une tente d'isolement. Ils seront ensuite dirigés vers le centre de traitement de Kinkole pour des examens appropriés. Selon le docteur Lionel Mbinga, responsable du site de Bembebembe, ce site n'a enregistré aucun cas suspect depuis le 28 mai, date du début de l'opération. Il précise que Bembebembe reçoit en moyenne par jour une dizaine de baleinières et au moins un bateau en provenance de l'Équateur et de Bandundu. Une séance de simulation de prise en charge des cas d'urgence a clôturé cette séance de contrôle.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme annoncé, nous revenons sur les programmes Tupingé ou Bakaji, ou lutte contre les violences sexuelles, est basé sur le genre dans les deux Kivu et en Ituri. Un programme de 5 ans qui s'est achevé officiellement le 25 juin 2018 à Kinshasa. Pour apporter plus d'éclairage, le Mag UN reçoit Monsieur Jules Kabangou, un des animateurs de terrain de ce programme. Jules Kabangou, expert juriste et coordonnateur du programme Tupingé ou Bakaji au Nord Kivu, il répond ici aux questions d'Honoré Misenga Kalala.
Jules Kabangou, bonjour.
Bonjour.
Le programme Tupingé ou Bakaji est arrivé à échéance le 25 juin 2018. En quoi a consisté ce programme?
Merci beaucoup pour la question. Le programme Tupingé ou Bakaji, c'est un programme qui a été exécuté conjointement par quatre agences des Nations Unies, le PNUD, l'UNESPIE, l'UNESCO, ainsi que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a visé à contribuer à réduire durablement le taux de prévalence des violences sexuelles à l'est de la RDC. Et qui dit est de la RDC, nous voyons le sud Kivu, le nord Kivu et la province de l'Ituri. C'est un programme qui a été financé par le gouvernement canadien à la hauteur de 18 millions de dollars canadiens pendant 5 ans, c'est-à-dire de 2013 à 2018.
Alors quels en étaient les objectifs majeurs?
Oui, c'est un programme qui avait 5 objectifs majeurs. Le premier est en rapport avec la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice en faveur des victimes de violences sexuelles. Cet objectif a été mis en œuvre par le PNUD, conjointement avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le deuxième objectif visait la communication pour le changement de comportement en rapport avec les activités de prévention de lutte contre les violences sexuelles. C'est l'UNESCO et le PNUD qui ont mis en œuvre ces activités. Le troisième objectif, c'est en rapport avec la prise en charge médicale et psychosociale, et le paquet d'activités a été mis en œuvre par l'UNFPA. La réinsertion socio-économique des victimes de violences sexuelles a été notre quatrième objectif et cela a été mis en œuvre par le PNUD. Et enfin, le projet a visé à mettre en place les mécanismes de coordination de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre à l'est de la RDC. Et ici, c'est le ministère du genre, enfants et familles au niveau national, provincial et territorial qui avait mis en œuvre ce paquet d'activités.
Au regard de tous ces objectifs, est-ce qu'on peut faire le bilan?
À ce jour, après 5 ans de mise en œuvre ce programme, le bilan il est satisfaisant parce que le programme a prévu de réduire le taux de prévalence des violences sexuelles à l'est de la RDC à la hauteur de 30%. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce programme, à la réduction de 35% de taux de prévalence des violences sexuelles. Ça, c'est la contribution majeure de toutes ces agences que j'ai dû citer. Il y a aussi une satisfaction qui a été notée lors de l'enquête des perceptions, de l'ampleur, et les victimes qui ont été bénéficiaires de paquets de services offerts ont estimé à 85% être satisfaits des interventions du programme. Et il faudra noter, parce que le programme a beaucoup visé la lutte contre l'impunité, il y a plus ou moins 53% de taux de poursuites judiciaires, avec 2 jugements de condamnation, 2 jugements d'acquittement et quelques jugements de classement sans suite. D'une manière générale, la prise en charge médicale a assuré l'accompagnement de 15 619 survivants des violences sexuelles qui ont été bénéficiaires de kits post-viol et aussi de l'accompagnement psychosocial. Un aspect important de ce résultat qu'il faudra noter, c'est la réinsertion. On a dû à réinsérer plus ou moins 3 779 femmes victimes de violences sexuelles et plus ou moins 1 000 victimes ont été rescolarisées, c'est-à-dire les victimes mineures d'âge qui ont été rescolarisées et qui ont été appuyées dans les institutions scolaires.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différentes activités mises en œuvre pour arriver à tous ces résultats?
Oui, ce résultat satisfaisant a été l'œuvre aussi des activités, de paquets complets d'activités qui ont été organisées au niveau de la lutte contre l'impunité. Là, on a appuyé les institutions de la chaîne pénale, la police, le parquet, les causes des tribunaux. Nous avons appuyé les cliniques juridiques et le barreau pour apporter une assistance judiciaire gratuite à toutes ces victimes. Il y a les activités de prévention qui ont été aussi menées grâce à l'appui de l'UNESCO. Aujourd'hui, la RDC est dotée d'une stratégie nationale de communication pour le changement de comportement. Et cette stratégie est assortie de plusieurs plans opérationnels adaptés à chaque province et qui ont permis à ce que nous puissions travailler beaucoup plus dans la prévention. Il y a eu un paquet des activités qu'on a menées au niveau des formations sanitaires où l'UNEFPA a intégré les services médicaux et psychosociaux au sein des formations sanitaires pour permettre à ce que les victimes puissent avoir un paquet complet de prise en charge. Et la réinsertion, ça a été notre porte de sortie. On a plusieurs victimes qui ont été bénéficiaires de ces paquets d'activités. Je tiens à signaler qu'on a renforcé les mécanismes de coordination. À ce jour, dans les provinces de mise en œuvre, la coordination fonctionne au niveau provincial, mais aussi au niveau des territoires, ce qui n'existait pas avant. La collecte des données qui pose un problème ici chez nous a été aussi appuyée. Aujourd'hui, la base de données est alimentée au niveau de la base jusqu'au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau national, au niveau du pays.
On n'allait tout de même pas me dire que tout a marché comme sur des roulettes. Il y a eu quand même des grands défis.
Bien sûr, on a connu beaucoup de difficultés dans les zones d'intervention. Comme vous le savez, il y a plusieurs poches d'insécurité dans les zones où nous avons implémenté les activités. C'est notamment dans le territoire de Béni, où on n'a pas pu mettre en place tout le paquet d'activités par rapport à ce qui se vit là-bas. Il y a dans certaines zones où il y a l'éloignement des bénéficiaires par rapport aux services apportés. Et les bénéficiaires n'ont pas eu vraiment accès à une gamme complète de toutes ces activités. Il y a un aspect important à souligner, c'est l'insuffisance du personnel judiciaire dans les zones à conflit aujourd'hui, surtout à l'est de la RDC. Les magistrats, les juges ne sont pas partout, surtout là où les conflits sont encore latents. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de difficultés pour avoir assez de jugements ou assez de décisions judiciaires quant à ceux.
Gilles Kabango, au regard des résultats, au regard des défis, quelles sont les leçons tirées de ce programme?
Les principales leçons qu'on pourra tirer, c'est qu'on a connu une forte implication du gouvernement à différents niveaux. Le gouvernement nous a accompagnés au niveau national, au niveau des provinces et même au niveau de territoire. On a senti l'autorité locale s'impliquer dans la prévention, mais aussi dans la réponse apportée dans la lutte contre les violences sexuelles. Les leaders communautaires qui, avant, encourageaient la pratique des arrangements à l'amiable, aujourd'hui, dénoncent de plus en plus les cas des violences sexuelles, ce qui était pour nous une leçon apprise et une bonne pratique à la fois. On a mis en place ce qu'on appelait le One Stop Center, c'est-à-dire le service intégré au sein d'une même structure. Une victime ne peut pas aller chercher d'autres services de prise en charge ailleurs. Au sein des formations sanitaires, on a installé le paquet complet avec tous les guichets, de manière à ce que si une victime arrive à l'hôpital, au même moment, elle suit une prise en charge psychosociale. Il y a aussi un guichet où il y a une clinique juridique pour l'accompagnement judiciaire Et le dernier guichet, c'est la réinsertion. Et cette approche dénommée One Stop Center nous a permis d'avoir les données fiables et aussi la perte des victimes lors de la prise en charge dans le cadre de ce programme.
Le programme Tuping Bakaji vient de boucler la boucle, comme on dit. Alors, Gilles Kabango, comment pérenniser les résultats et peut-être étendre ces résultats à d'autres régions du pays?
Oui, nous visons à ce stade dupliquer cette expérience de l'Est vers l'Ouest de la République, parce que le problème des violences ne se pose pas seulement dans les zones à conflit ou post-conflit. Grâce toujours au gouvernement canadien, il y a un nouveau programme qui sera mis en œuvre au courant de cette année et qui va prendre en compte deux autres provinces, c'est le Kasaï central et la ville-province de Kinshasa. Et nous allons mettre en place le paquet complet d'activités pour essayer de dupliquer l'expérience de l'Est vers l'Ouest. On veut aussi institutionnaliser le One Stop Center, cette stratégie, cette approche de mettre ensemble tous les paquets de services au sein d'une même structure.
Gilles Kabango, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Commençons cette page des nouvelles par cette note encourageante sur l'épidémie virus Ebola. Un communiqué du ministère de la Santé daté du 28 juin. Toutes les personnes ayant été en contact avec le dernier cas confirmé d'Ebola ont terminé leur période de suivi de 21 jours sans montrer de signe de contamination. Il s'agit d'une étape importante dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola car elle marque le début du compte à rebours pour l'annonce de la fin de la 9e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La fin de l'épidémie sera déclarée lorsque le pays aura passé 42 jours, soit deux périodes d'incubation, sans notifier de nouveaux cas confirmés d'Ebola, précise le ministère de la Santé. Cette épidémie a été l'épidémie la plus complexe et la plus difficile que les pays aient eu à gérer, principalement parce qu'elle a commencé dans deux zones rurales en même temps et a rapidement atteint une ville. Environnement à présent, Conserve Congo, une ONG congolaise qui milite pour la conservation de la biodiversité et la préservation de l'environnement, a initié une pétition contre ce transfert. Mais le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Environnement affirme qu'aucune décision n'a été prise autorisant le transfert de ces espèces animales vers la Chine. Selon Rubin Rachidi Bukanga, son institution a adressé une correspondance à l'ICCN pour examiner la demande de deux zoos chinois qui ont exprimé le besoin d'avoir ces animaux. Enfin, à Bénin Nord-Kivu, fin vendredi dernier de la formation d'environ 300 motards sur les règles de circulation et de sécurité routière, ainsi que les dangers de la route. Cette formation de 5 jours avait pour objectif de diminuer les accidents de circulation. Elle était organisée par la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Bénin, SOLIB. C'est une branche de la police de la MONUSCO en collaboration avec la police de circulation routière, la Commission nationale de prévention routière, CNPR, et le Bureau urbain des transports. Selon les organisateurs de cette sensibilisation, les motards formés ont la mission de répercuter leurs connaissances acquises auprès de leurs condisciples.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé, le représentant de l'UNICEF en RDC, le docteur Gianfranco Rotigliano, est l'invité de ce dimanche. Son agence a signé mercredi dernier à Kinshasa un accord de coopération avec USAID et UKID portant sur 8,5 millions de dollars américains. Objectif, assurer un enseignement de qualité à quelque 30 000 enfants dans le Kasaï. Il s'est confié à l'issue de la signature de cet accord à une brochette de journalistes dont Jean-Pierre Lali Coco de Radio Capi. Suivez.
Ok, nous avons remarqué que le financement tourne autour essentiellement de l'éducation. Alors qu'au Kasaï, il n'y a pas que l'éducation qui est un réel problème. Il y a la santé, il y a la nutrition, il y a l'accès à l'eau potable. Pourquoi avoir mis l'accent uniquement sur l'éducation?
Je pense qu'il faut mettre l'accent à la fois sur tous les secteurs qui sont intéressés. On a mis l'accent sur la nutrition. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, on a lancé une Child Alert ici, à Kinshasa, qui était axée surtout sur la nutrition, bien que l'éducation était mentionnée et que la santé aussi était mentionnée. Donc, aujourd'hui, les donateurs nous ont donné de l'argent pour l'éducation. Ils nous ont donné aussi de l'argent pour la nutrition, dans un moment différent. Donc, comme je dis dans mon discours, on cherche à couvrir tous les secteurs qui sont intéressés. Et bon, rassurez-vous que l'investissement dans l'éducation est fondamental. Est fondamental pour sauver une génération d'enfants, mais est fondamental aussi pour la paix. parce que les enfants qui vont à l'école, les enseignants, les familles, tout ce qui tourne autour de l'éducation et de l'école, si c'est correctement géré, c'est un élément de paix. C'est un élément de stabilisation de la société et des villages qui ont enduré une situation très difficile. Donc, ça démontre aussi une confiance et une attitude des donateurs à la confiance que les mauvais moments sont passés et qu'on va vers le développement, vers la paix. C'est un financement d'urgence, mais c'est quelque chose qui doit rester là-bas et c'est fait pour la résilience des communautés. C'est-à-dire, on doit faire des écoles de qualité, parce que ce n'est pas comme on fait parfois dans des situations d'extrême urgence dans lesquelles on veut juste mettre les enfants ensemble pour les enlever de la rue ou de situations difficiles. Ça, c'est une façon de rebâtir la société autour d'une quotidianité qui doit être reprise et mise vraiment en exergue.
Vous avez ciblé 52 écoles, mais la reconstruction particulièrement concernera combien d'écoles?
Bon, pour le moment, les écoles ciblées sont celles-là. On cherchera de faire avec nos partenaires et surtout avec le gouvernement un recensement des écoles et des endroits où il n'y a plus besoin. On va commencer par là. Et puis, bon, nous pensons que c'est pas la fin, hein, que peut-être nos amis vont après apporter plus pour qu'on puisse terminer l'œuvre. Et je pense aussi que le gouvernement fera des investissements. C'est dans l'intérêt de tous. Et nous avons vu les gouvernements centrales, mais aussi les gouvernements locaux, qui sont très collaboratifs. Ils veulent qu'on y aille, qu'on fasse des choses. Donc, le souhait de la paix, c'est le souhait de tout le monde.
Monsieur le représentant, vous avez parlé tout à l'heure de la bonne gouvernance dans l'exécution de ces projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? À quoi est-ce que vous pensez, justement, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance dans ces genres de projets?
Bon, les systèmes d'éducation, comme le système de santé, comme tous les autres systèmes sociaux et non sociaux, ont besoin d'être gérés d'une façon ou de l'autre. Donc, et si nous avons une bonne gestion, ce qui ne veut pas dire une gestion sans corruption, ça veut dire aussi une gestion articulée autour de l'école. De l'école comme point focal du système social à l'intérieur d'une ville ou d'un quartier ou d'un village. Et cela veut dire qu'il faut que les parents d'élèves soient impliqués, que les enfants soient impliqués, que les enfants aient un projet pour qu'ils puissent apprendre mieux et qu'il y ait transparence. Les comités des parents doivent pouvoir voir comment même l'État, même le ministère dépense son argent pour que les enfants aient une scolarité de qualité. Je pense que nous sommes tous d'accord sur cela et ce genre de système à mettre en place, ce n'est pas une chose qu'on fait dans un jour, évidemment, mais c'est dans cette direction qu'on veut aller.
Et la nouvelle de province nous emmène à Lubumbashi où la Banque mondiale a financé l'atelier de formation des experts comptables congolais. La clôture de cet atelier est intervenue mardi le 26 juin dernier. André Foucault, vice-président national de l'Ordre des experts comptables congolais, s'est exprimé et a mis en exergue l'importance de cette institution. Un extrait de ses propos recueillis par Karine Topé-Ridassi.
Lorsque l'ITIE publie son rapport annuel, qui est constitué disons, des états financiers que les entreprises extractives, miniers, du pétrole et j'en passe, ces états financiers sont d'abord audités par un expert comptable pour rassurer à l'État que les comptes qui sont publiés et les chiffres qu'on lui donne, dont l'ITIE dispose, sont fiables et que les opérateurs miniers et tous les autres qui ont produit l'ensemble de ces informations n'ont pas fourni des fausses informations qui pourraient faire en sorte que les statistiques sont faussées dès le départ.
Est-ce qu'en parlant de l'ITIE, vous êtes déjà arrivé d'avoir des divergences pour ce qui est de la certification des chiffres?
Oui, le rôle justement de l'expert comptable, c'est de contrôler. Et à la fin, il émet un rapport. Et dans ce rapport, il fait les constats de l'ensemble des anomalies et de tous les points qui sont divergents qu'il trouve dans cet état financier et qui fait rapport à l'ITIE, et l'ITIE les prend en compte pour pouvoir les corriger par rapport à cet élément là-bas. Et donc comme ça, l'État est rassuré que les chiffres qui sont publiés sont fiables puisque cela a revêtu l'intervention d'un expert comptable.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Y aurait-il un des réfugiés centrafricains incarcérés à Ndolo? La question a été posée au Acer le 20 juin à Kinshasa à la conférence de presse des Nations Unies.
Merci beaucoup. C'est Judith Assina pour le compte du site matininfo.net. Je pose la question aux représentants résidents du HCR. Il y a des ONGDH qui dénonce la détention d'une cinquantaine de réfugiés centrafricains à la prison militaire d'Indolo. Qu'en est-il exactement et que fait les HCR pour apporter la protection à ces réfugiés-là? Merci.
Chaque fois que nous sommes informés d'une situation de détention, nous nous rendons sur place avec notre partenaire gouvernemental, la Commission nationale pour les réfugiés, et nous essayons de voir s'il y a des charges qui sont contre ces personnes ou s'il n'y a pas de charges, quelle est la nature de la détention et si nous pouvons fournir une assistance juridique si ces personnes se retrouvent, par exemple, sans avocat. Alors, je pensais que vous alliez citer un autre cas qui a été porté à ma connaissance il n'y a pas longtemps de détention de réfugiés burundais pour lequel nous sommes déjà rendus sur place, mais honnêtement, je n'ai pas connaissance d'une cinquantaine de réfugiés centrafricains arrêtés dans une prison à Ndolo. Donc je vais me renseigner et peut-être je reviendrai vers vous lorsque j'aurai plus d'informations.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Bernardine Diambo Mwanda. Souvent, les collègues m'appellent Mama Diambo ou Mama Bernardine. Je suis mariée et mère de 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles et aussi 3 petits-fils. Vous comprenez que je suis une petite mamie, n'est-ce pas? Et je suis détentrice d'un diplôme d'État en section commerciale, mais avant, j'avais d'abord fait les études professionnelles en secrétariat où j'étais formée comme secrétaire de direction. J'ai également suivi des cours de comptabilité par correspondance. À cette époque, les cours nous parvenaient par la voie postale. Là, nous sommes à Mwanda, au Congo central. Voilà, à notre époque, lorsque vous finissez les études directement, on vous embauche dans une entreprise. Et donc, nous n'avons jamais connu le chômage. Comme j'avais fait mon stage professionnel dans une compagnie pétrolière Sosir, aujourd'hui Sosir, j'ai été engagé comme secrétaire dans une section commerciale dirigée par M. Kenda, qui nous a d'ailleurs quitté, paix à son âme. Après quelques années, j'ai quitté la Sosir pour Sinip, aujourd'hui DGM. Là, j'avais assumé le poste de secrétaire particulière de M. Cyril Nzumbuninguye, lui aussi nous a déjà quitté et paix aussi à son âme. Quelques années plus tard, en 1987, l'Office national du tourisme ONT est venu ouvrir ses portes à Mwanda. J'ai postulé et j'ai été retenu comme secrétaire de direction et comptable. En 1995, mon mari, qui travaille à la RVA jusqu'à aujourd'hui, était invité à Goma, au Nord Kivu. Et directement, moi aussi, ma direction générale de l'ONT à Kinshasa m'avait affecté à Goma. Comme l'oblige la loi congolaise, bien sûr, la femme doit suivre son mari partout où il va. Et comme l'Office national du tourisme existait à Goma, je n'avais pas eu de problème. À Goma, j'étais promis chef d'agence. Alors, comment je suis arrivé à la MONUSCO, notamment à la Radio Capi? Vraiment, c'est une longue histoire. C'était lorsque mon agence a connu des problèmes avec l'arrivée de l'AFDEL, puis RCD. Et donc, comme l'ONT dépendait de Kinshasa, on était vraiment coupé de notre direction générale. Là, je devrais chercher ailleurs. À chaque fois que le bus de dispatch de la MONUSCO passait vers chez moi, je me disais, tiens, moi aussi je dois travailler à la MONUSCO. Et à l'ouverture de l'antenne de Radio Capi Goma, là j'étais intéressé de faire le Kikongo. Mais comment y parvenir parce que je n'avais jamais fait le journalisme ou travaillé dans un média quelconque. Alors chaque matin, j'avais mon cahier et mon stylo. J'écrivais tous les mots difficiles et je m'exerçais en lisant à haute voix. Et souvent, c'était Jean Ngoma Koko qui présentait le journal à Kikongo. Chaque 8h et 19h, heure de l'Est, j'étais toujours branché pour suivre les Kikongo, voire même les Lingala. Et au mois de mai, je crois, on a lancé l'offre d'emploi à la Radio Capi pour engager un traducteur en langue Kikongo et Lingala. Voilà, la chance m'a souri et j'étais retenu comme traductrice en Kikongo et Lingala depuis le mois d'août 2002. J'ai suivi plusieurs formations en journalisme avec les différents formateurs par le biais de la Fondation Hirondelle. Aussi, je me suis inscrit à l'université de Sekoumad, Kinik Goma, pour faire la communication. Quelques années plus tard, je suis devenu journaliste et reporter Voilà, je m'intéresse à faire des magazines à caractère social. Là, vraiment, j'adore parler des faits sociaux et faire entendre la voix des femmes. Mon temps libre en tant que mère, je m'occupe du ménage, mais aussi je vais à l'église. J'aime écouter les chansons religieuses. Je suis Muyombe du Congo central. Là, c'est les Pondo Madesso et les Makayabo accompagnés de riz. C'est mon plat préféré. Après la Monusco, je crois, avec l'aide du Seigneur, je compte monter une entreprise familiale. Voilà tout.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Ce 1er juillet, c'est la journée internationale des coopératives. Et puis, cette semaine, l'ONG Oxfam met son projet eau, hygiène et assainissement dans les villages de Lundélé. Des forages fonctionnant avec un système photovoltaïque au grand bénéfice des milliers de ménages. Maguen se propose de couvrir cette activité. Et voilà, c'est la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Polydore Bassonga, à la réalisation, coordination et reportage, Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également, Noré Missinga, sous la supervision de Julien Niamoni. À bientôt sur Radio Kapi. Ciao.